de vos arrêter.
C'est cela.
Eh bien, le bonjour, les amis, c'est Angelus Yodasson.
Et Croquette, bonjour.
Pourquoi t'as l'air toute surprise?
Ah non, je non, ah, non, bah, ça fait tellement longtemps. J'ai
oui, ça fait tellement. On n'est pas mort? Non. On a juste plus de temps, mais on n'est pas mort. Donc, pour ce numéro, on ne sait plus combien.
Moi, je n'ai pas vérifié, j'avoue.
18, 19, par là.
20.
Attention, vérifions en direct.
La magie de l'Internet.
La 19, eh bien, je n'étais pas loin. Hein. Donc, pour ce numéro 19, eh bien, nous allons parler de quoi?
D'un livre. Donc, Nos étoiles contraires de John Green.
Ah, tu l'as enfin fini?
Je l'ai fini en même pas une journée.
Oui, non, enfin, je veux dire, depuis le temps que...
Tu l'as enfin fini.
Non, mais depuis le temps que...
Je l'ai lu en quelques heures.
Ah, c'est pas ça, mais depuis le temps qu'on t'en parle de lire, machin et tout.
Mais ouais, mais... Bon. J'explique pourquoi je...
Oui, et puis de quoi, donc, du coup?
D'un film qui s'appelle The Baby.
The Baby, soit. Je vais vous parler, comme d'habitude, jeu vidéo avec un jeu téléchargeable qui s'appelle Soldat Inconnu, Mémoire de la Grande Guerre, qui est un jeu un petit peu spécial, mais qui est bien. Et je vais vous parler d'un livre aussi, pour une fois, j'ai lu.
Putain, tu lis?
Ouais, et puis en plus, un livre avec des... Non, pas avec des pages, j'ai lu sur iPad, tu vois.
Oui, il y a des pages quand même.
Quoi? Oui, enfin, je veux dire, pas en physique. Qui s'appelle La Voix des Morts. Pas confondre avec... On s'en met recherche, j'ai vu qu'il y avait un pauvre film qui a l'air un petit peu chelou du même nom, mais ça n'a rien à voir.
Bah oui, je l'ai vu, je crois.
Ah.
Bon, ouais. il est pas si dégueulasse que ça, d'ailleurs.
D'accord.
Oui, non. Tu vois, tu dis, ah, gnigné.
Bah, je sais pas, ça donnait pas envie, mais j'ai surtout que je m'en foutais, je faisais les recherches pour moi. On commence donc par quoi? Allez, parlons livre.
Ouais.
Comme ça, on fera les deux livres au début et à la fin.
Ouais.
Voilà, donc, on va donc, le petit jingle, le livre, lecture, tout ça.
Toi d'abord ou moi d'abord?
Mais toi d'abord.
Le pitch. Au final, voilà.
On n'est toujours pas habitué au jingle de lecture.
Ouais, non, je déteste ce jingle. Il faut savoir que je déteste entendre ma voix, en fait. Donc,
Dis la fille qui fait du podcast. Mais non, c'est quoi,
je ne m'écoute pas. Jamais. Jamais je m'écoute.
Eh bien, sache que dorénavant, je ferai pareil. Je ne t'écouterai plus.
Tu as raison, parce que...
Donc
Oui, donc Nos étoiles contraires de John Green. Donc, on va commencer par le pitch.
Voilà. Non, ça me rappelle le jingle, c'est pour ça.
Je vais te faire bouffer ma feuille. Hazel est malade, gravement. Augustus est en rémission. Elle a 16 ans, lui 17. De leur rencontre, en groupe de soutien, il est charmé. Par son originalité, elle est séduite tout court. Ils ont le même humour, le même regard sans concession, et leur complicité est immédiate. C'est le début d'une magnifique histoire d'amitié et d'amour. Voilà. C'est ça le pitch.
Bien, ça a l'air un petit peu bateau, mais...
Mais en fait...
Par leurs prénoms qui sont chelous.
Il faut savoir que c'est un livre pour ados, en fait.
Ah.
C'est un livre pour ados.
Oui.
Donc forcément, voilà.
Ah. Faut pas mettre tout le monde ado, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est un livre pour ados, mais je pense que toutes mes amies l'ont lu. Tout le monde l'a lu, ce livre. Et en fait, moi, j'avoue... parce que... Donc, ils sont malades, ils ont un cancer, en fait. Et c'est vrai que moi, les histoires de gamins cancéreux, ça me bottait pas plus que ça, en fait.
Je sais pas pourquoi.
En fait, j'imaginais un roman mélodramatique, au possible, larmoyant, à se tirer une balle dans la tête. Enfin, un truc super déprimant.
Ouais, un truc de cancéreux, quoi.
Ouais. Mais après...
Oui, enfin, bon. On peut avoir le cancer joyeux, mais bon...
Et puis en fait, mon amie Charlotte, qui a à peu près les mêmes goûts que moi, m'a dit de lui faire confiance et de le lire. Donc je l'ai écouté.
Et tu l'as lu?
Et je l'ai lu, en fait, ouais.
Et qu'en penses-tu?
Et donc, ouais, je l'ai lu en même pas quelques heures. Bon, faut dire qu'il est pas super long non plus. Alors, je sais pas combien de pages, parce que je l'ai lu sur liseuse. Donc, je saurais pas. Puis j'avoue,
oui,
j'ai
puis ça
pas...
doit être marqué, puis on s'en fout.
Je peux vérifier.
C'est un livre de poche, quoi.
Non, justement.
Ah, c'était pas...
Non. Alors forcément, larmoyance, ça allait un peu, parce que forcément, les gamins, ils sont malades, c'est pas drôle, c'est pas super jouasse. Et en fait, en lisant le quatrième de couverture, on se doute que il y en a un qui va finir par...
Spoil.
Ils sont malades, et voilà. Je veux dire, ils sont pas malades pour déconner, ils ont pas la grippe.
Oui, non, mais enfin bon.
Ils ont quand même un cancer, et puis assez grave, quoi. Assez avancé. Alors, c'est un récit sur la mort, mais aussi sur l'amour. Donc, et c'est écrit avec une telle justesse et un tel cynisme qu'on ne se laisse pas aller, justement, dans ce côté que je voulais éviter, genre le mélodrame...
Larmoyant.
Voilà.
La tristitude.
Oui, mais c'est un peu triste, mais c'est écrit d'une telle manière que voilà, Hazel, elle est condamnée, elle le sait, on le sait, voilà. Donc, au diable, ouais, le mélo, voilà, on sait que ça va arriver, donc limite, c'est... C'est un peu la toile.
Oui, ça c'est fait quoi.
Voilà. Et en fait, c'est plus une histoire de, je sais pas, de philosophie en fait. Genre ouais, ok, je vais mourir, mais bon, ça m'empêche pas de vivre un peu le temps qu'il me reste à vivre, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc effectivement c'est une belle histoire, la mort y est traitée avec un certain romantisme et avec un peu de naïveté en fait, parce que c'est un livre pour ados avec des personnages ados, mais je sais pas, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune maladresse, c'était très bien écrit, très bien ficelé, c'est très joli à lire en fait. On n'est pas vraiment dans le livre pour ados où...
Oui, c'est pas Twilight quoi.
Ouais, non, c'est pas Twilight. Il n'y a pas de vampire à paillettes, tout ça, quoi. Il n'y a pas de cancer à paillettes non plus. Et en plus, je me suis laissée surprendre à la fin, avec un petit retournement de situation. Alors, je vous spoil pas, parce que si vous ne l'avez pas lu, franchement, il faut le lire, ce livre.
Et il y en a des deux qui a Munchausen, et il a absolument pas de cancer. Je vais peut-être un peu trop loin.
C'est ça. Mais du coup, ça m'a... voilà, quoi. Ça m'a surprise et je m'y attendais pas du tout. Et du coup, le livre était encore... Dans un sens, encore meilleur.
Plus bien.
Voilà. Voilà. En fait, c'est un...
Un livre qui est bien.
Un livre qui est bien, poignant, fort. Et j'ai trouvé très brillant dans l'écriture.
Tu vois qu'il y a des trucs à paillettes.
Ouais. Et en fait, du coup, pour le coup, il n'a pas volé son titre de meilleur roman 2012 selon le Time Magazine, qui a quand même une référence. Voilà.
Oui.
Dans le monde des magazines.
Dans le monde de gens qui lisent.
Dans le monde de magazines. Et en plus, un truc qui est très drôle, c'est qu'en fait, donc à un moment, ils se disent quels sont leurs livres préférés et chacun va le lire en fait. Et y a toute l'histoire en fait se base sur le livre préféré d'Hazel que du coup Augustus a aimé aussi. Et en fait, c'est un livre sur une fille qui a un cancer.
C'est une caption.
Ouais, les personnages sont super attachants et tout. Et en fait, le livre n'a pas vraiment de fin. Et c'est ce que Hazel trouve brillant, c'est qu'en fait, du coup, ça laisse la fin en suspens, on ne sait pas ce qui s'est passé ni quoi que ce soit. Et ce qui est marrant, c'est que je pense que tous les gens qui ont lu ce livre l'ont fait. Allez voir sur Google si une impériale affliction de Peter Van Houten existait vraiment.
Et en fait, non.
Et non, il n'existe pas. Mais en même temps, ça, je veux dire, oui, c'est le côté Inception, parce que du coup, la fin. Enfin, je veux pas trop en raconter, mais voilà.
Voilà.
Mais
il est bien.
Il est très bien. Si vous l'avez pas lu, lisez-le. Même si c'est un livre pour ados, faut pas s'arrêter à ça parce que franchement,
Et où est-ce que c'est qu'on peut trouver si
Alors, il est édité chez Nathan Jeunesse, donc forcément, livre pour ados, voilà. Donc, il est à 16€ en broché et à 13,99€ au format e-book.
Oui.
Et alors j'ai regardé s'il y avait un poche de prévu, j'ai pas trouvé de date. Par contre, il y a le film qui sort en août, donc je pense que quand le film va sortir, ils vont nous sortir le poche. Voilà.
Pour tous les pochards qui veulent lire,
Disons que tu vois, un livre à 16€.
Oui, d'un autre côté, c'est pas. C'est pas excessif.
Non, ouais, voilà. Mais bon, je sais qu'il y a, il y a pas mal de personnes, quand j'en ai parlé par exemple sur Instagram, qui ont dit ah, moi j'attends la sortie poche. Donc voilà. C'est vrai qu'après, c'est les vacances.
C'était une question de format.
Non, mais c'est vacances, le format poche est peut-être aussi plus pratique.
Question de format.
Voilà. Par contre, du coup, je sais pas si j'irai voir le film, parce que j'ai adoré. C'est vrai, j'ai adoré le livre, et souvent, quand j'adore les livres, les films ne suivent pas, derrière. Voilà.
Et bien soit.
Voilà. Et ah oui, et je voulais un livre pour les grands, comme sur. Je sais plus s'il a un cancer ou pas, le héros.
Si vous êtes dans, dans votre côté, je lis tous les livres sur les cancéreux. Lisez la biographie de Lance Armstrong.
C'est le jeune homme, La mort et le temps de Matheson, donc le mec qui a écrit Je suis une légende. Là d'ailleurs, j'ai lu le livre, j'étais voir le film, j'ai failli mourir de honte, tellement il était nul ce film, alors que le livre est fabuleux. Et justement, le jeune homme, la mort et le temps, alors je sais pas si c'est dans ce sens-là, ou le jeune homme, le temps et la mort, non, c'est le jeune homme, c'est ça, il est superbe aussi, le héros va mourir aussi, il le sait, il y a un petit côté un peu science-fiction, du Matheson en fait, et je le conseille aussi parce qu'il est vraiment très bien, et pour le coup, celui-ci est sorti en poche.
Moi, j'avais lu Sur la route.
Sur la route ?
Oui, Sur la route de Matheson. Pardon.
Ouais. On ne va rien dire à ce sujet. Tu veux parler de ton petit livre ?
Je veux pas. Tu veux en enchaîner deux livres, tu crois ?
Bah, c'est ce que t'as dit.
Ah non, je pensais faire un livre au début, un livre à la fin, mais on peut
enchaîner les deux. Ah, mais tu sais qu'au début, t'as dit, ouais, on va enchaîner les deux livres.
Oui, hein, au début et à la fin, ce qui n'est absolument pas veut dire enchaîner. Mais
oui, c'est pas de l'enchaînement, ça.
C'est pas du tout de l'enchaînement, mais si tu veux qu'on enchaîne, on va enchaîner.
Non, mais parle-t-on.
Je vais donc vous parler, comme ça, c'est de remettre un jingle, dit-il en faisant bouger le micro.
Et comme ça, j'en entendrai pas ma voix, ça ne va pas me perturber.
Voilà.
Très bien.
Je vais donc vous parler de La Voix des Morts, qui est en fait la suite, pour ceux qui connaissent, de du cycle
La Voix des Vivants.
De quoi ? Non, du cycle d'Ender, en fait, parce que j'ai vu le film, en fait, j'ai pas lu le premier bouquin, même si j'en avais entendu parler dans L'Apéro du Capitaine et tout, en disant, ouais, c'est bien, on attend le film, et puis voilà, j'ai vu le film, avec entre autres Harrison Ford, qui, bon, on le regarde pas pour Harrison Ford, parce que c'est même pas le héros du truc, et un autre acteur qui est pas vieux, mais qui l'est pas mal.
La phrase qui veut rien dire, ouais. Avec, entre autres, Harrison Ford, mais en fait, on s'en fout,
c'est
parce
ça.
Que, voilà.
Mais voilà, mais comme c'est le seul acteur à peu près connu dans le truc... Voilà, voilà. Alors, sachant que j'avais pas lu le livre dont est tiré le film, qui est aussi donc le premier livre du cycle d'Ender, enfin, qui pose les bases du truc.
Mm-hmm.
Et j'ai bien aimé, voilà, même si tu t'attends un petit peu au dénouement, genre au cliffhanger que tu fais, ouais, bon, vous êtes gentil, mais on l'avait vu venir. Mais c'est sympa, et j'ai vu qu'il y avait en fait c'était tout un cycle de livres. Je me suis dit donc, là, hein, je vais donc lire le livre d'après.
Michel Leeb sort de ce corps.
Voilà, tout à fait, hein. Pardon. Donc, il s'agit du cycle d'Ender, hein, par le même gars, bizarrement, l'américain Orson Scott Card. Rien à voir avec le type qui vit dans la maison. Ou sauf Card, pardon. Voilà, et qui est un roman de science-fiction, hein, comme le premier, tout le cycle, de toute façon, est un roman de science-fiction.
Je vois le mec qui fait un livre de science-fiction, après il fait une romance.
C'est ça, c'est dans le même cycle.
Dans le même cycle. Le mec, il craque, puis à la fin, il fait un truc historique.
Voilà, donc, eh ben, on repart avec le même héros, donc Ender, qui, eh ben, je vais essayer de pas vous spoiler, en fait, ça va être dur, mais qui a fait un certain truc dans le 1, et ben, qui, du coup, porte un peu ça sur ses épaules. Alors, oui et non, parce que ce qui est bien, c'est que le cycle d'Ender et pas mal du bouquin, en fait, est basé sur la théorie des voyages spatiaux, mais avec la vraie théorie de la relativité, c'est-à-dire que c'est pas du bullshit dans les voyages spatiaux, genre un peu à la Star Trek et tous les films qu'on connaît, Star Wars et tout ça. Dans la série, tu voyages plus vite que la lumière.
Mais c'est pas du bullshit.
Non, mais c'est pas ça, c'est là, c'est le vrai principe, c'est-à-dire que quand tu voyages à la vitesse de la lumière, quand tu reviens sur la même planète ou quand tu voyages d'une planète à l'autre, ben bizarrement, les autres gens, ils ont vieilli. Tu vois ? Donc en fait par rapport à ce qu'il a fait, tout le monde a plus ou moins oublié, parce que c'est pas lui, parce qu'en fait il a 2000 ans, les gens se disent ouais, un type qui a 2000 ans c'est un petit peu pas possible, parce qu'il arrête pas de voyager de planète en planète, genre il se pose deux jours, il voyage 25 années-lumière, donc pour lui ça dure genre 25 jours, mais pour les autres ça dure 25 ans. Et à force de voyager comme ça, ben avec sa sœur, il a plus ou moins accumulé 2000 ans, donc les gens disent bah, le type qui a fait des trucs dans le premier c'est pas lui. Vu qu'il est cané depuis à peu près 1990 ans. Donc ça lui permet de se rebâtir une personnalité, une identité, voilà. Mais qui reste...
Comme un Highlander, quoi.
Oui, c'est ça. Qui reste un petit peu ancré en lui. Et ce que j'ai bien aimé dans ce livre, outre que ben, ça, c'est la suite directe avec toutes les conséquences et comment il vit avec... je dirais avec la suite du premier. C'est dur de ne pas vous spoiler sans vous pouvoir l'histoire du premier. C'est qu'en fait, ça se lit comme un... C'est un truc de science-fiction, mais ça se lit comme une enquête policière, en fait. C'est que tout départ, tout part d'un meurtre sur lequel ben, le fameux Under va enquêter. Parce que son rôle en tant que voix des morts, c'est de faire parler les morts. C'est-à-dire, quand il y a des crimes mystérieux et tout, si quelqu'un demande à un parleur de... je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, de faire parler les morts, c'est-à-dire de reconstituer pourquoi ils sont morts, dans quelles circonstances, tout ça. Eh ben, ils doivent venir enquêter. Alors, ce qui est marrant, c'est que le premier à avoir fait ça, c'est justement Under, et qu'en fait, c'est devenu une espèce de, je dirais, de société ou de, comment dire, en fait, de caste, les parleurs et tout. Et personne sait que c'est lui le fondateur du truc, vu que ça a été fondé genre il y a 1000 ans ou 500 ans. En fait, c'est super vieux. Donc en fait, il a fait ça entre temps. On apprend qu'il a fondé ça en fait, et que du coup personne sait que c'est lui le premier parleur, mais bon, ça en reste un et tout. Et il va enquêter sur la mort d'un type en fait qui étudiait une espèce endémique dans une seule planète. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, comme ils sont aperçus par rapport encore une fois à ce qui s'est passé dans le premier, que quand il y avait une interaction entre humains et en gros population locale de bestioles, ça mettait un petit peu la pagaille. Donc il y a que deux personnes qui peuvent avoir des contacts pour étudier la société ou la pseudo-civilisation, parce que ça reste plus que des animaux, mais ils sont pas super évolués non plus, quoi. Les piggies, en fait, ça s'appelle, qui ressemblent un petit peu à des petits porcelets ou des petits cochons, qui ont un système de société. Donc ils essayent de les étudier, mais il y a que deux personnes qui peuvent y aller pour limiter les interactions. Et il y en a un des deux qui se fait buter.
Par les cochons.
En gros, oui. Et du coup, pourquoi, comment se fait-ce, voilà. Et de là, on découle plein de choses. Donc c'est vrai que c'est un roman de science-fiction, parce que ça pose les codes de la, je dirais, de la science-fiction, on a des vaisseaux spatiaux qui machin, ça se pose sur, il y a pas mal de choses qui se passent, découlent du fait que justement, quand tu voyages, là par exemple, il a 25, il y a des lumières de la planète d'où il vient au début du bouquin, donc lui quand il fait le voyage, ceux qui sont restés là-bas, qui connaissent, ont pris 25 ans dans la gueule, donc il se passe aussi des choses. Et indépendamment aussi, les gens qui l'ont appelé à la base, le temps qu'ils fassent le trajet, ils ont aussi pris 25 ans. C'est-à-dire que tu demandes à un type d'enquêter, mais en fait, il vient te... Au fait, il y a 25 ans, vous m'aviez demandé d'enquêter sur un truc, le temps que je fasse le trajet, me voilà. Donc ça pose aussi un petit peu des problèmes de ce côté-là. Enfin, sachant que voilà, ce qui est devenu un plus ou moins secret de famille ou certaines choses dans certaines familles, bien l'autre... Pour lui, il y a deux jours que les autres ont fait la demande, pour lui, il y a 25 ans, donc forcément, il revient un petit peu remuer la merde, pour parler trivialement. Et voilà, mais en fait, ça se lit comme une enquête policière, sachant qu'à chaque fois qu'il y en a un qui approche plus ou moins de la vérité, on s'aperçoit qu'il se fait buter pareil, pourquoi donc ? Voilà, et puis du coup, est-ce que des meurtres pour nous, ça équivaut à des meurtres pour d'autres sociétés ? Il y a un petit côté aussi sociologique d'évolution de société, est-ce que ce qui est perçu comme une chose dans les sociétés est perçu le même ressenti ou la même signification dans une autre société
Ouais, les cochons, ils butent peut-être des gens pour s'amuser.
Non, mais par exemple, tu vois, genre, quand tu prends les sociétés cannibales, ça n'a rien à voir avec le livre. Mais genre, pour eux, c'est normal de bouffer des gens. Après, quand un Européen qui arrive, il fait « Ah, mais vous bouffez des gens, c'est dégueulasse !» Tu vois. Mm-hmm. Un petit peu ce genre de truc, sachant que les cochons butent personne à l'épingui, mais c'est, tu vois, pour un exemple, ce qui peut être naturel pour d'autres, les autres font ouais, non, c'est pas top.
Oui.
Enfin voilà, il est bien. Si vous avez lu le premier livre, je peux pas vous conseiller de lire le deuxième parce que vous l'avez sûrement déjà fait depuis longtemps.
Le film.
Si vous avez vu le film et que vous voulez vous plonger un petit peu dans cet univers-là et voir ce qu'il arrive après, parce que la fin est quand même assez ouverte, du premier forcément, vu qu'il y a des suites derrière, allez-y, il est bien, il se trouve un petit peu partout. Voilà, sachant que la collection de base était le Club du Livre d'Anticipation, mais comme ça a été, ça date des années 80,
le truc en dormant.
C'est un petit peu mort. Voilà, c'est ça. Sachant que bah, ce bouquin-là, en fait, il a été publié en 86 et il est tellement bien qu'il a raflé pas mal de prix. Le prix du Victor Hugo d'anticipation, entre autres. Des choses comme ça, je ne les ai pas toutes sur les yeux, mais même s'il n'est pas raflé de prix, on s'en fout, il est bien. Voilà. Donc lisez-le, moi je vais essayer de me faire le troisième quand j'aurai fini les autres bouquins que je dois lire. Ouais. Voilà. Et ben on peut passer à autre chose. Mm. On va donc passer au film.
Ouais.
Donc le jingle film. Attention, c'est parti, film. Le noir se fait. Et voilà, après ce jingle aussi long qu'un un fameux jingle du dieu Quacos, eh bien nous allons pouvoir enchaîner sur ton livre.
Ouais. Non, c'est un film.
Sur ton film, oui.
Ce qui est bien, c'est que ça laisse le temps aux gens d'aller faire pipi. Tu sais, comme les pages pub dans la télé.
Donc.
The Baby. Donc,
le est... bébé.
Le bébé, oui, mais tu vois, en fait, c'est le titre français.
D'accord.
Oui, non, parce qu'en anglais, ça s'appelle Deville Dew.
Et le titre québécois est donc Le nourrisson qui n'est pas vieux.
C'est ça. Non, mais des fois, on ne comprend pas trop pourquoi il change le titre original pour donner un autre titre en anglais. Je ne comprends pas.
Si, des fois, c'est surtout pour faire vendre, enfin, pour faire venir les gens.
Ouais, enfin.
Comme Cruel Intention qui était devenu en français Sex Intention. Genre, il y a du sexe, venez regarder.
Ouais, mais là, The Baby, quoi.
The Baby. Parce que le bébé, en fait, ça ferait trop flipper. Genre, ah ! Parce que je parie que c'est un film d'horreur, non, tu regardes.
Mais
ça.
Oui, forcément. C'est un film d'horreur.
Tu vois, genre, The Baby, ça fait un petit peu horreur. C'est une connerie américaine sur les bébés. Tandis que le bébé, ça ferait trop. Non, ça fait peur.
Ouais, enfin, en même temps, quand tu vois la.
Ou alors,
la
c'est
fiche,
que,
hein.
Ou alors, avec le titre, Le Bébé, tu t'attends à un film avec
une
Mathilde
comédie,
Seigner et autre connerie. Ouais, c'est ça, un
une
vieux
comédie
film français,
avec
quoi.
Danny Boone.
C'est ça, Danny Boone et Mathilde Seigner, là, forcément. Là, c'est tes yeux qui vont saigner, quoi.
Ah, je l'aime pas, Mathilde Seigner. Autant Danny Boone sur certains trucs, ça passe, autant Mathilde Seigner. Enfin bref.
Donc, le bébé.
Là n'est pas la question. Donc, j'ai même pas noté de qui était ce film. On s'en fout. Le pitch. Suite à une soirée bien arrosée lors de leur lune de miel, deux jeunes mariés doivent gérer une grossesse survenue plus tôt que prévu. Alors que le père choisit d'immortaliser les 9 mois filmant sa femme, il découvre que celle-ci adopte un comportement de plus en plus inquiétant, témoignant de changements profonds aux origines sinistres et mystérieuses.
Alors si ça peut t'aider, le titre québécois c'est L'héritier du diable.
C'est très mignon, j'aime bien.
L'héritier du diable.
Quoi, j'aimais bien le nourrisson qu'il est pas très vieux aussi.
Et c'est un film, ah bah, ils se sont mis à deux en plus pour le faire, hein, normal, comme pour tout bébé, ils se sont mis à deux pour le faire. C'est Matt Bettilini-Holpin et Tyler Gillette. Sachant qu'il n'y a pas de deux à la fin, donc c'est Gillette
c'est
et pas Gillette.
Mais pareil, les acteurs, je sais pas ce qu'ils ont
fait.
Ils ont
fait L'héritier du diable.
Ouais, les acteurs.
Ah ben, c'est Alison Miller, Zach Guilford, Sam Anderson et plus. Ah non, ça c'est...
plus.
C'est le truc de...
Ouais, enfin, tu vois, c'est des gars qu'on connaît pas, quoi.
Ah bah ouais, ils sont...
Ils sont...
Ah bah si, il y a lui qui a fait 15 000 trucs, mais on sait jamais son nom. Monsieur Second Rôle, hein, qui s'appelle en fait Bill Martin Williams.
Bah en fait, toujours Second Rôle, je crois qu'il est voilà. Un des parents, je sais pas quoi.
Et Géraldine Saint-Gère, la femme à la machine à couture.
Pff, oh là là... Et t'es fatiguant des fois, enfin bref. Donc, vous l'aurez compris, c'est un film sur le thème du bébé démoniaque, vu et revu. Mais attention, cette fois-ci, on le traite avec la technique du footage.
Ah, la caméra à l'épaule.
La caméra sur l'épaule.
Oui, façon film espagnol, là, comment il s'appelle?
Rec, mais bon, Rec, c'était sympa. Ah, moi, oui. J'ai bien aimé, mais bon.
Oui, mais j'ai pas dit que c'était nul. J'ai dit que c'était pour donner aux gens de à quoi ça ressemblait.
Voilà, mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment...
Ah bah, il y a une grosse mode de on faisait tout ça. Hein.
T'en as marre. Et là, en plus, bah, voilà, ça file des nausées.
Bah, normal.
Voilà, ce qui est bien vu, puisqu'on parle de grossesse.
Oui, bah, je viens de la faire, là, c'est ça.
Oui, mais moi, je l'avais noté sur mon papier, je l'avais faite avant toi, hein. Alors si je prends des notes et que toi tu me piques mes vannes...
Ah, c'est pas de ma faute si moi je peux les faire en improvisant et que toi t'es obligé de les écrire, mais vas-y.
Alors le problème c'est que cette technique de caméra sur l'épaule, donc c'est le papa qui filme sa dulcinée en cloque, voilà. Et donc c'est qu'en fait c'est un film à un instant...
Donc pas que la caméra qui peut se mettre sur l'épaule, oui.
Un instant T, donc on se concentre sur des petites brides comme ça, de trucs qui se passent par-ci par-là. Résultat, niveau explication, zéro.
Tu comprends rien.
Voilà, parce qu'en fait, c'est comme un film de, bah, de grossesse, de famille, voilà. Donc, il filme par-ci, par-là, gna gna.
Ouais, t'es censé voir un peu l'évolution de temps en temps, sauf que tu piges que dalle.
En fait, du coup, t'as juste ces images-là et t'as pas le...
Oui, enfin, c'est censé être un truc d'ambiance qui te donne le truc, sauf que...
Voilà, tu vois, par exemple, dans Rec, il n'y avait pas d'explication, mais ça, comme ça allait, tu vois,
oui, oui.
Au fur et à mesure de l'action... Tu comprenais au bout d'un moment. Alors que là, c'est des petites brides. Ah tiens, là, il dégueule. Ah tiens, là.
Ah tiens, finalement, elle vomit du sang. Il y a peut-être un truc qui est pas cool.
Tiens. Enfin, voilà. Et du coup, on n'a pas d'explication. Donc, en fait, on en finit par se demander, est-ce que c'est pour le style ou par un pur manque d'inspiration?
Je pense qu'ils ont essayé de faire un truc stylé, mais qu'ils se sont foirés, apparemment. Ça, j'ai pas vu. Hein.
Voilà, donc en fait, c'est un film... Enfin, moi, j'ai trouvé très creux, vide, et ça sert pas à grand-chose, parce que même au niveau des effets spéciaux, il y a rien. Mais alors, rien. Alors que, voilà, on aurait pu faire des petits trucs.
Oui, donc j'en ai dit que le bébé du diable, là, il faut pas tant de merde que ça, vu que...
Bah, si, il fait tomber des trucs, enfin... Je veux pas tout raconter, ah, oui. Si, il fait quand même des trucs, mais...
Il fait tomber des trucs, c'est le chaos dans la maison.
Il fout le bordel, il est même pas de l'air.
Non, mais si c'est des gens maniaques, ça peut les conduire au suicide, mais à part ça, je vois pas, mais...
Ouais, non, il se passe un truc un peu horrible à la fin, mais...
D'accord.
Mais voilà, quoi, en fait...
Quand il sort du ventre de sa mère, en lui explosant de façon alien...
Non, même pas, s'il y avait eu ça, ça aurait été cool.
Oui, ouais. Donc ouais, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Soit.
Voilà, voilà, c'était naze.
C'est, l'idée était... Enfin, bonne, voilà. Aussi de, mille fois exploitée, sauf qu'en fait, on s'est raté, quoi.
Limite, le fait de le traiter avec ce truc de caméra sur l'épaule, ça aurait pu lui apporter un plus, sauf qu'au final, non. En fait, ça apporte juste du vide, du flou, du... Enfin...
Mais c'est pas un remake d'un truc, parce que je me souviens d'un... Je sais pas si c'était un vrai film ou un téléfilm, L'Héritier du Diable, un truc comme ça, ça me dit quelque chose.
Ah.
Qui était pas tiré d'un truc de Stephen King, je sais pas quoi, qui lui était un petit peu flippant d'ailleurs. Enfin, ouais, c'était plus dans l'ambiance et dans le truc, là aussi, ça déchirait pas un gars à mort, mais...
Ouais, non, je pense...
Non, je pense peut-être ou c'était peut-être pas le bon titre.
Ouais, parce que là, en fait, il y a un truc comme quoi... Au bout d'un moment, le gars, il se rend compte. Ah, tiens, si je regardais les vidéos de la lune de miel, enfin, je veux dire, trois plombes après, enfin, bref. Ouais, non, c'était naze. Voilà.
Ouais, donc tu peux spoiler L'Héritier du miel, moi, du coup, je tape.
L'Héritier du miel.
Ouais, c'était pour la lune.
C'est le film.
La lune de miel.
Et donc c'est sorti le 7 mai 2014 au ciné et ça sortira le 23 septembre en DVD Blu-ray si vous avez envie de vous faire chier, voilà. Et c'est 20th Century Fox qui sort ça.
D'accord.
Donc tu t'y retrouves, hein?
Non, bah j'essaie de retrouver mon film, mais ça n'a pas l'air.
Tu vois, d'ailleurs, niveau film qu'on n'a pas trop aimé, Hunger Games, L'Embrasement, qu'on a regardé récemment...
C'est pas qu'on n'a pas aimé, c'est qu'il ne sert à rien, en fait.
Ouais, c'est vrai, il est sympa, visuellement.
Mais il ne sert à rien.
Mais il apporte rien. Il apporte juste le truc pour dire « Ah, rendez-vous dans l'épisode 3 !»
C'est ça. C'est en fait... Allez, on y retourne, et à la fin, il va enfin se passer un... Ah bah non, c'est dans le 3.
C'est ça, voilà. C'est ouais. En même temps, moi j'avais déjà pas aimé le premier, toi je sais que t'avais bien aimé.
Bah, j'ai bien aimé le premier, ouais. Mais là ça fait un petit peu, on y retourne pour ce que Histoire 2. Et puis, parce qu'en fait, on s'attend tout le long du film que ça bouge, et quand ça va enfin bouger, tu te fais « Ah, il est déjà 1h40, je sais pas combien, un truc. »
Ah non, 2h26.
Ouais, bah, ou 2h26, et, ouais. Et là, tu fais quand ça va bouger, ils font « Allez, le générique passe, attendez le 3. » Voilà, ouais. Donc il sert à rien, c'est Naris, Kiko, machin, enfin, Naris, ça fait pas avancer l'histoire, ouais. Quoi.
Donc si vous avez des films bien à nous conseiller...
Oui, parce qu'il y a plus de séries.
Ouais, il y a plus de séries à regarder, là. On se fait chier devant la télé.
Voilà. On va donc passer à la dernière partie, qui est une partie jeux vidéo, puisque je ne retrouve pas mon truc du diable, tout ça, voilà.
Non, mais je pense que ça n'a rien à voir. Hein.
Ouais, bah non, apparemment, mais j'aimerais bien retrouver mon truc, mais...
Le truc du bébé démoniaque, ça a tellement... j'aurais dû vous faire un listing des films à ce sujet, mais... ne serait-ce que Rosemary's Baby, tu vois, qui est très bien, ce film. Très vieux, mais très bien.
Non plus, c'est pas ça. Je sais pas, c'est peut-être pas assez facile.
Ouais, enfin bref, on va peut-être avancer, là,
oui,
parce que
voilà,
là, on essaie de meubler le truc pour que tu trouves ton info.
Non, oui, c'est... Bon, tant pis. Alors, on va donc passer au jeu vidéo. Attention, petit générique. Et voilà, je vais donc vous parler de Soldat Inconnu. Mémoire de la Grande Guerre, qui est donc un jeu qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, vu que c'est dans le cadre du centenaire de la Deuxième Guerre mondiale, donc 1914-2014. Merci de suivre, personne. Donc, voilà, alors petite dédicace encore à l'apéro du Capitaine, parce qu'il en a parlé dans son dernier podcast sorti, c'est-à-dire celui d'il y a 3 mois en fait en temps réel. Et il a très mal vendu le truc.
Qui est sorti il y a 2 jours.
Et voilà, c'est ça. Et il a un petit peu très mal vendu le truc, parce que bon, sur le papier, c'est peut-être pas un machin. Mais en fait, ce jeu, il est très bien. C'est pour ça que je vous en parle.
Pourquoi il l'a mal vendu?
Parce que il a dit, ah, ça passe pendant la Première Guerre mondiale et tout. Ça va être tout naze et tout. Et en fait, non, il est très bien. Alors, il n'est pas son défaut, je dirais, ludiquement parlant. Voilà. Mais il est sympa, parce que déjà, on peut se dire, ah, c'est un jeu dans le cadre du centenaire. En plus, il a le label de la société du centenaire et tout. On va se faire chier comme des rats morts. Et
ouais,
ben
c'est
non.
Un truc pour vendre dans le cadre. Ouais, tiens,
non,
c'est
puis voilà, ils veulent faire de l'éducatif, machin, ça va être chiant comme la mort. Eh bien non, il est très bien. Alors, il est très bien pourquoi? Alors, je dirais qu'il a tendance à dire qu'il est très bien parce qu'il est fait par Ubisoft, c'est faux, mais il est fait avec l'Ubisoft Framework, ce qui sert entre autres à faire les Rayman, les nouveaux Rayman un petit peu cartoon, tu sais, les Rayman Legends, Rayman Origins, tout ça. Et en fait, c'est le même moteur, c'était fait par les gars d'Ubisoft Montpellier, et non pas Montréal, donc les Français de Français, en fait, hein, le truc.
De Montpellier.
La Core Team. Ouais, mais Ubisoft, à la base, c'est français, après, ils sont exportés à Montréal, ouais. Mais. Donc, et ça a un esprit, ben, justement, très, très BD-esque, je dirais pas cartoonesque parce qu'on n'est pas dans du truc un petit peu caricatural façon Roger Rabbit, choses comme ça, mais on est dans du cartoonesque en fait, on a l'impression presque d'une BD interactive. Voilà, c'est assez sympa, les personnages sont un petit peu caricaturés mais sans être justement grotesques façon cartoon. Donc on se passe en 1914 et le jeu en fait se base autour de je dirais de l'aventure, enfin qui s'entrecroise de 4 personnages en fait qui vont évoluer en même temps, qu'on pourra tour à tour diriger et non pas digérer. Et alors à la base je pense que sur ces 4 personnages, il paraît qu'il y en avait un cinquième qui était prévu, l'anglais, mais il n'y a pas de chapitre. Ça fait partie de mes questions de pourquoi, qu'est-ce qu'il n'a pas été, c'est un petit peu dommage, vu le titre et que sur l'internet mondial des réseaux du monde, tout le monde a l'air d'avoir kiffé. Et bon, je voulais le laisser pour la fin, mais je vais déjà d'entrée vous poser ma deuxième question. Qui est en fait, pourquoi ça ne va pas jusqu'en 18, ça s'arrête en 17 et pourquoi ça va pas jusqu'à la fin de la guerre? Parce que bon, même s'il se passe des trucs au niveau des personnages, il y avait moyen d'aller jusqu'à la fin. Voilà. Parce que encore une fois, je veux pas spoiler la fin qui est assez chargée en émotions. D'ailleurs, il y a pas mal d'émotions tout au long du truc. C'est un des points forts d'ailleurs du jeu. C'est sa narration, voilà, je dirais. Donc, déjà, ça se passe en 14, hein, la guerre vient d'être déclarée, donc déjà de base. C'est pas top,
très
hein,
rigolo.
C'est pas très très rigolo, un petit peu comme les cancéreux de tout à l'heure, comme postulat de base. Et on démarre avec Émile, qui est un paysan français, Mais est-ce qu'il y a de Paglop en plus dans le fait qu'Emile, ben, il est réquisitionné pour aller à la guerre parce qu'il a, je crois, 48 ans, un truc comme ça, une petite. Enfin, il est quasiment à la limite d'âge, mais pas assez pour ne pas y aller. C'est qu'en plus, eh ben, sa fille est maquée avec un Allemand et qu'en tout bon Allemand, il est reconduit à la frontière en disant « T'es gentil, on vient de déclarer la guerre à l'Allemagne, donc tu rentres chez toi, on veut pas de boss chez nous. » Et en plus, ben, une fois qu'il est en Allemagne, les autres, ils en font « Ah, mais tu as l'âge de faire la guerre, toi, viens là !» Hop, allez, sous les drapeaux! Et ben, du coup, il se retrouve à faire la guerre au pays, et même au camp, et même au régiment d'ailleurs. Hein, pas de bol de son gendre. Enfin, je sais pas s'ils sont mariés, mais enfin, ils ont au moins fait un gamin ensemble avec, je crois que sa fille s'appelle Marie. Marie, voilà. Marie. Donc, on a Émile le Français, on a donc Karl, hein, qu'on va jouer aussi. Karl, qui est le gendre allemand. Voilà, on a aussi un Américain, un petit peu la brutasse du groupe, qui s'appelle Freddy, Lucky Freddy. On a aussi une infirmière belge qui recherche son père à peu près à travers les champs de bataille de la guerre, qui s'appelle Mathilde, je crois. J'ai plus le nom de l'infirmière belge. Et donc ça fait, nous, 1, 2, 3, 4 personnages, voilà. Sachant qu'il y a un personnage bonus qui s'appelle Walt. C'est le petit chien.
C'est le chien, ouais.
C'est le petit chien qui, à la base, est un chien allemand, mais qui va se prendre d'affection pour Émile et qui va le suivre au fil de ses aventures. Même si il interviendra aussi avec Karl, mais voilà. Et il y avait normalement l'aviateur anglais qui ne s'appelle, je ne sais pas, vu qu'on ne le joue pas, qu'on aperçoit un moment dans le jeu et puis pof, on n'entend plus jamais parler. Il paraît que c'était le cinquième personnage jouable, en fait, qui était prévu, qui lui était un aviateur, mais bon, on ne sait pas. Je vais essayer de ne pas vous spoiler les jeux, mais ce qui est. Ce qui est bien en jeu, on l'a dit, c'est déjà la direction artistique, façon un petit peu livre, voilà, BD, qui expliquerait la guerre, mais sans être très chiant.
Le fait que
bah, ça respecte la vérité historique de telle scène de bataille, il s'est passé ça, ça met l'accent, en fait, sur les points caractéristiques, je sais pas si c'est français ma phrase, de chaque bataille. C'est par exemple quand je te dis, ah, c'est pas là où ils ont balancé le gaz moutarde au début, et finalement, tout le background du jeu est justement sur l'utilisation du gaz moutarde, enfin sur une partie dans ce niveau-là. Voilà. Et sachant que ce qui est bien, c'est que tous ces personnages qui sont déjà plus ou moins liés à la base, ne serait-ce qu'Emile et Karl, après Emile va se lier d'amitié avec Freddy, ils vont finir par rencontrer Mathilde, on va l'appeler Mathilde, je crois que c'est son nom en fait pour de vrai, mais voilà. Et tous ces destins vont se croiser pour avoir des buts qui vont s'avérer plus ou moins des buts communs. Par exemple, Freddy qui a une dent contre un colonel allemand, on va s'apercevoir que ce même colonel allemand, c'est lui qui a plus ou moins embarqué le père de Mathilde, donc ils vont faire route commune pour essayer de le retrouver, des choses comme ça. Bon, Emile et Karl qui essaient de se retrouver pour ne pas se mettre sur la gueule et rentrer chez eux. Voilà, des choses comme ça, sachant qu'au niveau du gameplay, ils ont aussi un petit peu tous leurs spécificités. Comme je l'ai dit, Freddy, c'est un petit peu la brutasse et qu'à la cisaille pour couper les barbelés, il y a des actions de gameplay comme ça. Emile qui a sa petite pelle ou sa louche pour pouvoir creuser, puis souvent c'est lui qui peut donner des ordres à Walt, parce que souvent c'est un petit peu un des grands principes du jeu, c'est des actions énigmes, c'est-à-dire hop... Il faut envoyer le chien, activer ce levier pour ouvrir cette porte, ou moi je peux passer, après je rappelle le chien, ça me permet moi d'ouvrir un levier où le chien pourra passer, enfin des trucs de style là. Voilà. Donc Emile et Walt, Karl qui sa particularité, c'est que de temps en temps il peut piquer des uniformes pour passer inaperçu ou passer dans des zones où il n'aurait pas le droit d'aller sans l'uniforme adéquat, tout ça.
C'est le caméléon.
Et Mathilde qui soigne les gens, hein, qui fait des bandages, des piqûres.
C'est une infirmière. Hein.
Voilà. En plus, en temps de guerre, c'est dire si elle a du taf. Voilà, tout à fait. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que on a tout le background de la Première Guerre mondiale, où on a pour ceux qui cherchent les trophées, les choses comme ça, pas mal d'objets récupérés plus ou moins cachés dans les niveaux, mais qui permettent de donner le vrai background. Donc, ils sont des vrais objets avec, par exemple, des lettres, des extraits de lettres de soldats de différentes nations, allemands, anglais, des plaques, par exemple, de soldats canadiens, de soldats anglais, où on apprend... Pourquoi ils sont venus là, comment ça se fait, de camp à camp, à quoi ils ont servi dans des batailles plus ou moins spécifiques, les choses comme ça. Sur un petit peu la société de l'époque, par exemple, qu'il n'y avait pas de stylo à billes, qui donc, la plupart du temps, c'était des porte-plumes, des choses comme ça. À l'époque, c'était écrit dans les tranchées, ça a été un petit peu le caca. Voilà, du genre, voilà, pas mal de choses comme ça. Donc c'est un petit peu sympa. Au niveau des défauts, ben, c'est un petit peu toujours les mêmes. Je dirais, ils ont un peu fait tendance à faire appel au même mécanisme de jeu. De, on voit là où les obus vont tomber et on essaye de pas se les prendre sur la gueule. Le mécanisme de Pulse aussi, de hop, à faire activer un levier par le chat, chose comme ça, ou des obus à faire péter, ou à essayer de pas se faire péter aussi en les touchant, ou en, justement, ou en lançant des trucs dessus pour encore une fois faire un trou, débloquer un passage, des choses comme ça. Un grand truc récurrent, c'est un peu les pipes, je sais plus quoi s'appelle ce jeu, où il faut refaire un réseau de trucs pour que il y ait la flotte, le gaz ou choses comme ça qui passe. Voilà, donc c'est pas, faut pas le prendre comme un jeu hardcore gamer, mais faut, je dirais plus pour le prendre comme un jeu d'ambiance. Voilà, c'est pas que éducatif, mais la musique sert bien l'ambiance, et si on veut, je dirais traverser une grande part de la Première Guerre mondiale pour connaître le destin de ces quêtes-là, c'est assez sympa, ça donne envie.
Voilà. Niveau musique, il y avait les trucs là aussi en rythme et tout, j'avais trouvé ça assez...
Oui, il y a des phases aussi en véhicule et oui, qui sont en rythme avec la musique, c'est assez sympa. Assez sympa aussi, même si du coup, les mécaniques de jeu sont assez redondantes sur ces, oui. Sur ces phases-là, c'est un petit peu toujours les mêmes, mais bon, c'est pas rédhibitoire, ça se laisse jouer. Après, c'est vrai qu'au niveau de la rejouabilité, c'est pas un jeu... J'ai essayé d'y retourner un peu, chercher les objets qui me manquaient, mais j'avoue que ça m'a pas super passionné après une fois qu'on a l'histoire. Mais ma grande question, alors j'espère qu'ils vont se sortir les doigts et faire une suite qui nous emmène au moins jusqu'à 18, mais voilà, c'est dommage que je trouve que ça s'arrête là. Même si la fin est, voilà, je dis émotionnellement chargée, tout ça, je pense qu'il y avait moyen d'aller plus loin. Alors est-ce que c'est un espèce de mini cliffhanger, truc comme ça, pour aller jusqu'en 18 et qu'il y a un deuxième épisode derrière, ce qui serait bien, ou alors est-ce que ça s'arrête là et voilà, ça peut se contenter d'aller là, mais c'est un petit peu dommage.
Oui, parce que la guerre c'est 14-18, quoi.
C'est ça, et là on s'arrête en 17. À Amsterdam, non. Non, c'était...
Ah, je sais pas.
Non, Leidenstadt, pas Amsterdam. La chanson Engelmann. Ah. Tenir 17, tout ça. Voilà. Bon, et ben, voilà, je pense qu'on a fini cet épisode 19 qu'on a mis encore 3 mois au lieu d'un seul à enregistrer.
On n'a pas le temps,
qu'est-ce qu'on
on a
peut
plein
dire,
de
qu'est-ce qu'on peut dire si qu'on nous retrouvera, il y a 99% de sens, non, au 27 sur 24 de Pod Radio.
Ouais.
Voilà. Que bah, si vous voulez, vous avez un podcast qui est bien, que vous voulez le soumettre à Pod Radio, allez-y. Hein. Vous pouvez m'envoyer un mail à angelus@podradio.fr ou aller sur le site de Pod Radio et remplir le formulaire d'adhésion pour qu'il soit diffusé sur un canal en fonction de quoi qu'est-ce que donc que vous parlez. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je ne sais pas, rien. Qu'on peut nous retrouver, par exemple, toi sur croquette.fr.
Ouais.
Moi sur angelusyodasson.com, voilà, même si je poste un petit peu rien pour l'instant, mais je pense à une nouvelle formule de truc, peut-être que je vais mettre ça en place ou pas. Voilà, sur Twitter, @croquette, @angelus_yodasson. Voilà, qu'on espère vous revoir dans un mois et pas dans 3 mois, et que bonnes vacances à ceux qui sont déjà en vacances ou qui nous écoutent en vacances. Déjà, joie et bonheur dans vos cœurs à nous écouter. Hein, voilà, je pense qu'on ne peut on ne peut que procurer de la joie et du bonheur aux gens qui nous écoutent. Donc, joie et bonheur dans vos cœurs. Et puis, à la prochaine fois.
Mais oui.
Allez, au revoir.
Au revoir.